RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Salut à tous, heureux de vous retrouver également, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Après plusieurs grandes villes, la vitesse va être limitée à 30 km/h dans Paris. Bonne ou mauvaise initiative, c'est jusqu'à 13h.
Oui, et puis puisqu'on parle des villes, Le Touquet, Saint-Malo, Cannes, Nice, vous savez ce qui va se passer dans ces villes ? Eh bien, on va rétablir le port du masque en extérieur. Et oui, bah, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée face au variant Delta ? Est-ce qu'il faut tout simplement généraliser cette mesure sur tout le territoire ? On vous attend au 32-16, on va en débattre à partir de 13h.
À 12h50, pour faire plaisir à Alexandre, on va jouer. C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité? Cette semaine, vous gagnez votre séjour pour deux personnes dans les hôtels Baladins à la ville ou à la campagne. Pour gagner votre séjour, vous envoyez JEU, J-E-U par SMS au 732-16. Faudra ensuite gagner le C'est quoi ça pour gagner votre séjour. 30 km/h, ça sera désormais la vitesse à respecter dans presque tout Paris, hormis le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes comme les Champs-Élysées à partir de la fin août. Pour David Béliard, l'adjoint au transport et à la voirie de la mairie socialiste d'Anne Hidalgo, c'est avant tout une décision pour la sécurité.
Effectivement, on a une politique qui est une politique très assumée, de transformer l'espace public pour diminuer la place de la voiture, pour le redonner à d'autres usages et notamment à des mobilités qui sont des mobilités plus douces, plus actives, le vélo, la marche à pied et évidemment les transports en commun comme le bus. La question de la diminution de la vitesse, elle s'intègre dans cette logique-là, mais elle a plutôt d'abord pour objectif de rendre plus sécurisés les piétons, les cyclistes, diminuer encore une fois la vitesse, passer de 50 à 30, c'est améliorer la sécurité de tout le monde dans l'espace public.
Aujourd'hui, 60% de la capitale doit déjà respecter la limitation des 30 km/h. Alors, ça ne va pas changer drastiquement les habitudes, puisque selon les calculs de l'Observatoire des déplacements à Paris, la vitesse moyenne d'une voiture en 2019, c'était 11,6 km/h. Actuellement, 200 villes sont déjà passées aux 30 km/h. Nantes, Montpellier, Grenoble, Pornichet, Saint-Maur-des-Fossés ou Chartres. Alors, 30 km/h en ville, est-ce que c'est la bonne vitesse à Paris comme ailleurs ? Laurent, tu dis oui ?
Bah, je dis oui parce que tu as déjà tout dit, en fait.
Et ben
déjà
voilà.
Tout dit. Je m'étonne qu'on s'étonne de cette décision de la ville de Paris, puisque 200 villes sont déjà passées aux 30 km/h et ça fait de longs mois. Je m'en étonne doublement parce que, je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire, c'était l'une des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une excellente mesure sur le plan de la sécurité routière, pas pour les automobilistes, mais pour les usagers vulnérables de la ville, c'est-à-dire à commencer par les piétons et les cyclistes. Encore une fois, des grandes villes l'ont fait. Donc, et en plus, c'est bon pour le bruit. Ah oui, ça, on oublie tout le temps. Figurez-vous, quand on roule vite en ville, ça fait du bruit. Voilà. Et dernière chose, les débats qu'on a sur les 30 km/h en ville, je comprends bien, c'est vrai, les automobilistes vont dire on nous embête, c'est encore une mesure discriminatoire, c'est encore punitif, etc. Je vous rassure, les amis, il y a quelques années, on a eu le même débat quand on est passé de 60 à 50 km/h. Et plus personne, d'ailleurs, aujourd'hui ne dirait roulons à 60 km/h. Il y a eu les mêmes débats. Et ben vous verrez, dans quelques années, les 30 km/h, ça passera comme une lettre à la poste.
Moi, je me souviens d'un autre débat sur les 80 km/h et quelques semaines après, on a eu la crise des gilets jaunes. Donc, je suis pas sûr que ça passe comme ça. En tous les cas, ça me paraît une mesure injuste, inefficace, qui va créer des bouchons monstres. Et quant à la sécurité, franchement, à Paris aujourd'hui, j'ai davantage peur des trottinettes qui bientôt vont aller plus vite, qui déjà vont plus vite que les voitures et qui vont bientôt faire plus de morts que des voitures. Donc, effectivement, c'est une mesure folle. Je ne crois pas que ça va faire diminuer le bruit parce que quand il y a des embouteillages, des coups de klaxon, on est dans une folie pure et il y a autant de bruit que si les gens pouvaient rouler tranquillement. Et enfin, il y a une dimension sociale qu'on aborde pas, mais qui me paraît être essentiel. En réalité, on veut interdire Paris aux voitures et aux banlieusards. Paris va être réservé aux Parisiens qui pourront se déplacer à pied, en vélo ou en trottinette. Je suis pas sûr que ce soit très bien. Moi, j'aime bien quand Paris est une ville qui travaille, une ville où il y a encore des familles, où il y a encore des classes populaires. Donc tout ça au nom de l'écologie et du vivre ensemble. En réalité, on a un système féodal, en quelque sorte, qui est en train de se mettre en place.
On a plein d'auditeurs remontés comme des coucous suisses qui nous attendent au 32-16. Mais avant, Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 30 km/h en ville, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Stéphane qui habite à Paris, qui est responsable dans la sécurité. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous.
Toi, t'es un peu remonté contre les 30 km/h.
Ah oui, je suis excessivement remonté, presque trop remonté. J'ai un traitement pour l'hypertension et j'avoue que là, je le prends très sérieusement.
Alors du calme.
Calme-toi Stéphane, calme-toi.
Non, je suis choqué pour plusieurs choses. Il se trouve que dans mon travail aussi, j'ai des responsabilités sur l'environnement. Donc il faut quand même dire aux gens que le bilan carbone de la France est au grand maximum 1,20% du bilan carbone mondial. Que l'automobile compte à peu près pour même pas 20% de ce bilan. Donc on intervient sur 0,20 à 0,30% du bilan carbone. Mais peu importe, c'est à peu près 2 jours de pollution de la Chine, de la Russie, des États-Unis ou même de l'Allemagne et du Japon. Donc voilà ce sur quoi on intervient et ce sur quoi on pénalise des gens à l'heure actuelle en France. Petite précision, tous les Français et la plupart, même ceux qui ont des revenus corrects comme ma femme ou moi, nous n'avons pas les moyens de changer de voiture du jour au lendemain, parce que, ou même sur un an ou deux, parce que quelqu'un a décidé que l'électrique c'était très bien, ce qui ne sera plus le cas dans 10 ans quand on se rendra compte que c'est tout aussi polluant que des voitures thermiques, voire plus, en termes de recyclage. Ça, c'était mon petit préambule. Le second, c'est qu'aujourd'hui, oui, alors on va expliquer que 30 km à l'heure, c'est parfait, etc. J'étais tout à fait d'accord avec cette mesure devant les établissements scolaires, par exemple, ou devant certains établissements hospitaliers ou autres. Je trouve ça normal. Elle est scandaleuse, globalement, pour une bonne et simple raison. C'est que la philosophie qui est cachée derrière tout ça. Et franchement, c'est quelqu'un qui a toujours voté à gauche qui vous dit ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on veut tout simplement privilégier une classe de la population qui vit dans le centre de Paris, qui dispose soit de voitures avec chauffeur, soit a les moyens d'habiter à quelques minutes de son lieu de travail. Et les gens normaux, je dirais, chômeurs, petits salaires, salaires moyens, même voire des salaires de cadre en début de carrière, on leur indique tout simplement qu'ils ont le droit d'aller habiter à 30, 40, 50
exactement.
Km de Paris.
Ajouter à ça le prix du mètre carré.
Ah oui,
oui. Voilà. Et effectivement, et c'est un système incroyablement inégalitaire et qui se dit de gauche. Voilà. Bravo.
Et qu'ils ne se plaignent pas parce qu'on leur donne l'insigne honneur de venir garer leur voiture sur des parkings privés qui seront hors de prix en bordure de Paris. Non mais franchement, il faut relire un peu la littérature. C'est le meilleur des mondes là qu'on nous prépare. Hein. C'est très exactement cette philosophie de vie.
Bon,
alors
Stéphane,
que des gens qui
Stéphane,
se présentent de gauche, ça me scandalise.
Alors Stéphane, je te réponds sur plusieurs points. D'abord, le premier, on va l'évacuer tout de suite. Tu as parlé du bilan carbone. On oublie cet argument-là, puisque la décision de passer à 30 km/h n'est absolument pas liée au bilan carbone ou à des raisons écologiques. Éventuellement, les nuisances sonores, mais pas du tout pour réduire le bilan carbone. C'est fait pour des raisons de sécurité routière. Donc déjà, on évacue cet argument. Deuxième argument, je suis 100 fois d'accord avec toi, figure-toi, sur la stratégie à Paris qui consiste à faire payer les parkings à des prix scandaleux, que ce soit d'ailleurs les prix en surface ou les prix en sous-sol. En plus, on a totalement privatisé les parkings. Et là, quand on est de gauche, c'est quand même discutable. En l'occurrence, privatiser les parkings à 4, 5, parfois 6 euros de l'heure, c'est un scandale, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais en revanche, les 30 km/h, moi qui suis assez sévère sur tout ce que tu as dit, changer de voiture, oui, t'as raison, tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture, je suis d'accord, les parkings payants, je suis d'accord. Mais pardon, les 30 km/h, c'est pas le sujet, on revient au sujet de la sécurité routière. Voilà, c'est un sujet de sécurité routière. Et très honnêtement, je rappelais ce débat-là, mais il y a 15 ou 20 ans, quand on est passé dans les centres-villes, partout en France, de 60 à 50 km/h, il y a eu les mêmes débats. Et aujourd'hui, plus personne ne s'interroge sur cette mesure. Et tu verras, Stéphane, dans quelques années, c'est d'ailleurs déjà le cas dans près de 200 villes en France, c'est plus un sujet le 30 km/h.
Mais est-ce que tu as vraiment l'impression que dans Paris, par exemple, le problème de sécurité, c'est la vitesse? Parce que quand tu marches, tu as les trottinettes, les vélos et les voitures qui s'arrêtent, qui te roulent dessus au passage piéton. Mais c'est pas la vitesse.
Alors, je suis automobiliste, donc autant te dire que je peste tous les jours contre les mauvais comportements des cyclistes, des trottinettes. trottinettes, des piétons parfois, etc. et des automobilistes aussi. Mais je me suis rendu compte d'un truc. Et là, j'aimerais bien que s'il y a des spécialistes de la sécurité routière en ville qui nous appellent pour confirmer ce qui n'est qu'une intuition. Je pense que le différentiel de vitesse entre les modes de mobilité est un vrai souci. Entre le vélo qui va grosso modo à 20 km/h dans le meilleur des cas, la trottinette qui va à 10-15 km/h en ville, les voitures qui peuvent rouler à 50 km/h, la taille des bus, les vélos qui côtoient les bus, etc. Je pense que le fait de réduire la vitesse va sans doute réduire le nombre d'accidents, graves ou pas graves d'ailleurs. Voilà, moi je pense que les usagers vulnérables, encore une fois, je pense aux cyclistes et aux piétons, les familles qui se promènent sur les trottoirs, etc., ou qui essayent de traverser des grands axes à Paris, c'est l'aventure.
Traverser tout court.
C'est la jungle.
Mais pourquoi c'est l'aventure ? Parce qu'il y a des embouteillages monstres. Donc ça va aggraver encore le problème de différentiel de vitesse que vous pointez. En réalité, aux heures de pointe en ville, enfin en centre-ville, on ne roule déjà plus à 30 km/h. Donc c'est une mesure qui va être punitive.
11 km en moyenne en 2019.
Et qui va accroître l'espèce de chaos qu'on connaît avec, effectivement, vous l'avez dit, les vélos, les trottinettes et le côté sauf qui peut, parce que les gens sont pressés de circuler, ils passent, ils sont obligés de prendre des moyens autres que la voiture, de se bousculer, et je pense que si on veut vraiment être utile aujourd'hui à résoudre le problème de sécurité, c'est peut-être de réglementer justement plus sérieusement l'usage des vélos, des trottinettes sur les trottoirs, etc., et du tout réduire la vitesse des automobilistes, qui, encore une fois, est déjà bien réduite aux heures de pointe.
D'abord, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Tu peux très bien faire des efforts pour réguler la circulation des cyclistes et des trottinettes, et pour autant te réfléchir à la vitesse des voitures en ville. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des combats à mener, notamment dans une ville comme Paris. Le parking payant, le fait de vouloir absolument changer de voiture, etc. Tout le monde n'a pas les moyens. Ça, c'est des vrais combat. Il y a un autre combat. Toi qui es proche du peuple, des petits commerçants, des artisans, on partage au moins ce combat avec tous les deux. Exact. Très bien.
Eh ben, quelqu'un dire le contraire.
Eh ben, oui. Absolument.
Bonjour, je ne suis pas proche des petits commerçants. Je suis loin des pauvres.
Mets-toi deux secondes à la place des artisans qui viennent intervenir dans Paris. Bientôt,
c'est la folie.
Bientôt, tu ne pourras plus trouver un plombier, un électricien, etc., qui sera à l'extérieur.
Mais tout cela, vous voyez bien que tout cela, Horneman ne fait pas le naïf, tout ça participe de la même politique en réalité.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les 30 km/h.
C'est pour des raisons de sécurité routière.
Ah oui, c'est la seule raison.
Non, c'est pas des raisons pour de sécurité routière. Bah, c'est pour poursuivre cette politique, effectivement, d'éradication de la voiture, d'éradication de ceux qui, des étrangers à Paris, en quelque sorte, même si on est censé être dans le même pays. Donc, pour moi, c'est une mesure prétexte, parce que comme je le disais, le problème de la sécurité routière à Paris n'est pas du tout le problème de la vitesse, ça a été rappelé. On va en moyenne à 11 km/h. Après qu'on mette des 30 km/h devant, ça a été dit, devant les hôpitaux, devant les écoles, je pense que ça existe déjà, ça me choque pas du tout.
Excuse-moi, c'est juste pour rendre la vie impossible
aux automobilistes, c'est tout.
Alexandre, il se trouve que de nous deux, c'est moi qui ai le permis et qui roule en voiture dans Paris.
C'est vrai.
D'accord ? Il y a déjà 60% des rues dans Paris qui sont à 30 km/h. D'accord ? Et demain, lorsque le 30 km/h va être élargi à l'ensemble des rues, ça ne concernera pas le périphérique, ça ne concernera pas les grands axes autour de Paris, ce qu'on appelle
parce
les maréchaux.
La préfecture n'a pas voulu,
et sinon,
on y avait le droit avec le périphérique.
Et deuxième point, on va en reparler dans un instant, mais toi qui es pour la décentralisation, voilà une mesure où on laisse la main au maire.
Alors ça, c'est intéressant. Moi, je suis pas pour l'aller. Je suis pour que l'État revienne dans les territoires perdus, mais pas du tout pour la décentralisation qui favorise, à mon avis, c'est une erreur des élites, l'archipel français. Et là, on est là-dedans. Paris est une île au milieu de la France, et je trouve ça scandaleux. Ça participe de la fracture territoriale.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. 30 km/h, est-ce que c'est la bonne vitesse pour rouler en ville? Un grand merci à Stéphane qui est venu débattre avec nous dans Demain le Chiffre. Dans un instant, on sera avec Paul qui nous attend de Pantin, qui lui aussi d'accord avec Alexandre Devecchio. Jean Barrera sera avec nous, président des nouveaux taxis parisiens, mais des taxis qui doivent rouler la nuit notamment, ils râlent. Et puis on jouera au C'est quoi ça? Pour jouer avec nous, vous envoyez JEU par SMS au 732-16 pour gagner votre week-end dans les hôtels Baladins. Tout de suite sur RMC.
RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chip, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Après plusieurs grandes villes, la vitesse va être limitée à 30 km/h à Paris. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative? Pour Laurent Neumann, bonne, c'est plus de sécurité et moins de bruit. Pour Alexandre Devecchio, mauvaise, encore de l'idéologie qui paralyse la ville. Et c'est aussi le point de vue de Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, c'est le porte-parole de 40 millions d'automobilistes. Il était sur BFM TV ce matin.
Avec Anne Hidalgo, on est systématiquement dans une sémantique qui vise à taper sur la voiture. On va finir par avoir des zones 30 qui ne seront pas respectées. La zone 30, elle avait une vertu, c'est de faire comprendre aux usagers qu'on était dans une zone de danger. Si demain, vous retirez ces zones 30 au profit d'une ville toute à 30, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de notion de danger pour les usagers. À force d'abaisser la limitation de vitesse pour les voitures, donc en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de rouler à plus de 30 km/h, bien finalement, elles vont finir par se faire dépasser par les vélos.
Juste une chose, ça c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument. C'est vrai que jusqu'à présent, zone 30 autour des écoles, zone 30 autour des crèches, zone 30 autour des hôpitaux, par exemple, donc des zones à risque, c'est vrai que si c'est 30 partout, ça pourrait induire les automobilistes en erreur. Mais c'est 30 partout. Donc, au fond, autour des crèches ou des écoles, etc., il n'est pas question de rouler plus vite, c'est 30 partout.
Oui, il va y avoir la question de l'application de cette loi. Est-ce que ça va pas être aussi un impôt supplémentaire? Est-ce qu'on va mettre des radars partout? Il va falloir avoir le nez quasiment sur le compteur de vitesse pour circuler, à mon avis. Et puis voilà, j'en parlais des taxis la nuit. Encore une fois, je pense pas que c'est ce qui cause le plus d'accidents à Paris. Quand les voies sont dégagées, c'est absurde de circuler à 30 km/h. Et là, pour le coup, l'argument est bon, puisque quelqu'un qui serait tenté de rouler plus vite verrait plus la différence quand il y a un danger et quand il n'y en a pas. Donc ça nous montre que c'est une mesure difficilement applicable, si ce n'est à taxer, encore une fois, l'automobiliste.
On sera justement avec Jean Barrera, président des nouveaux taxis parisiens, tout à l'heure. Lisa Marie Evandalo, 32-16, quelle est la première tendance?
Vous avez un avis bien tranché sur les 30 km/h en ville. Vous êtes déjà 77% à trouver que c'est une mauvaise initiative. Je dis déjà parce que ça continue d'augmenter.
Bien sûr.
Et vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages sur les vitesses, les différences de vitesse entre maintenant une voiture, une trottinette, un vélo électrique. En fait, tout le monde va rouler à peu près à 25-30 km/h.
Mais ça, je pense que ce sera mieux pour la sécurité, pour le coup. 30 km/h les voitures, 25 km/h maximum pour une trottinette, un cycliste qui a un bon coup de pédale, c'est aux alentours de 25 km/h, donc tout le monde va être à peu près à la même vitesse, c'est pas mal.
Peut-être qu'il faudra aussi réfléchir plutôt à brider les trottinettes. Moi, ça me paraît aberrant qu'une trottinette maintenant aille aussi vite qu'une voiture, d'autant plus qu'elle circule sur les trottoirs. On l'a vu, il n'y a pas longtemps que ça a fait à mort. C'est peut-être ça c'est de ça qu'il faut s'emparer comme question, plutôt que de taper toujours sur les automobilistes.
Je rappelle que la vitesse en ville en moyenne à Paris est de 11 km/h. On va au 32-16.
RMC Neumann Le Chypre
32-16. Et on était avec Paul qui nous appelle depuis Pantin, qui est commercial dans l'optique. Bonjour Paul.
Bonjour Laure, bonjour Laurent et bonjour Alexandre.
Je voudrais poser une question là au 32-16. Il n'y en a pas un seul qui peut être d'accord avec moi, qui passe un petit coup de fil,
là,
c'est incroyable.
C'est
quand
pas
même
gagné pour l'instant, mon pauvre Laurent. Alors, toi, tu fais un trajet Pantin-Paris tous les jours ou pas?
Alors non, c'est pire que ça. Enfin, c'est mieux que ça. Je m'occupe de vendre des lunettes aux opticiens dans Paris, région parisienne et tout le nord de la France. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis très inquiet parce que cette limitation de vitesse n'est pas là pour un motif de pollution, de sécurité routière, parce que la sécurité routière, les véhicules sont la cause de 16% pour des excès de vitesse. Et j'ai une interrogation pour Laurent sur un tableau. Il est noté 22% autre cause sur les statistiques de la sécurité routière. Alors pourquoi est-ce que c'est... Alors il a peut-être pas la réponse, mais pourquoi est-ce que ces 22% ne sont pas détaillés? Est-ce que c'est pas des piétons qui traversent même quand le feu est vert et qui ne voient pas la voiture arriver? Donc il y a des choses qui sont un peu étranges dans cette décision parisienne de la ville de Paris. D'autant plus que la décision, j'ai lu un article qui disait que la consultation à l'automne dernier a dégagé un 50% pour et 50% contre sur 5737 personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on décide d'appliquer une décision pour laquelle tout le monde n'est pas d'accord?
Alors attends, tu me poses plusieurs questions. D'abord, les 22%, la autre cause, je ne sais pas te répondre. Ce que je sais, c'est que dans 90% des cas d'accidents dans Paris, que ce soit des accidents très graves ou juste des accidents matériels, il y a toujours une faute individuelle qui peut être due au conducteur, au piéton qui traverse hors des clous, à une trottinette qui n'a pas respecté la priorité ou un feu rouge. Il y a toujours une responsabilité individuelle. Sur la route, il peut y avoir une erreur mécanique, il peut y avoir un problème d'intempérie dans les grandes villes, c'est toujours quasiment une faute individuelle. C'est 30 km/h, c'est mieux pour la sécurité routière, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je suis automobiliste, donc moi, ça ne m'amuse pas, cette mesure. Moi, elle me pénalise, à titre personnel. Ça ne fait aucun doute, et je comprends qu'il y ait, je vais te dire, à chaque fois qu'on discute des vitesses, normalement, c'est 90% des gens qui sont contre les limitations de vitesse. 90% des gens. Donc, je ne suis pas étonné de ça. Mais année après année, je prends toujours cet exemple-là. Naguère, sur le périphérique, autour de Paris, c'était 90 km/h. Puis 80. Aujourd'hui, c'est 70. Mais c'est passé dans les mœurs, tout va bien.
C'est pas vrai que la vitesse est le seul facteur de réduction des accidents. Il y a des pays où il n'y a pas de limitation de vitesse. Je pense à l'Allemagne, et ils ont moins d'accidents.
Il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes.
Oui, notamment.
Il y en a partout ailleurs.
Oui, sur les autoroutes. Mais nous, on en a mis sur les autoroutes, on en met partout. Et donc, moi, je pense que sur les autoroutes, ça pourrait être plus light, les limitations de vitesse, et y compris en centre-ville comme à Paris. Je suis pas. Il n'y a rien qui prouve que c'est la vitesse qui crée aujourd'hui des accidents. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'encombrement, le côté anarchique de la circulation.
Le téléphone
plutôt
portable,
que le téléphone portable, enfin, plein de choses.
Mais ça, c'est
plutôt
vrai.
Plutôt que la vitesse. Donc, non, moi, je crois, encore une fois, il ne faut pas être hypocrite. C'est une mesure d'éradication de la voiture. Alors, on peut poser le débat correctement. Pourquoi pas? On peut se dire, après tout, pourquoi pas, d'ici 10-15 ans, Paris, une ville sans voiture, elle sera plus agréable à vivre. Mais à ce moment-là, il faut se donner les moyens de développer les transports en commun, de faire qu'ils soient sûrs. Bah, je sais pas, mais le métro parisien, je voyage, je pense que c'est un des métros les moins sûrs et les moins propres du monde. Quasiment, vous allez à New Delhi. Le reste est moins sûr qu'à Paris, mais le métro, pour le coup, est propre et sûr. Donc, et voilà, moi, si j'aurais des enfants, peut-être que je serais pas tranquille si j'avais une fille qui prenait le métro à Saint-Rabat.
Moi, je prends le métro tous les jours, zéro problème. Il est même pas en retard.
J'ai pris la ligne 13, ça dépend quelle ligne. J'ai pris la ligne 13 des années. D'abord, c'est une bétaillère. Enfin, sans même parler des problèmes de sécurité.
Un peu de monde.
Il y a un peu de monde. Donc, je pense qu'il faut mettre, le paquet.
Le métro parisien, c'est pas une horreur, ça va.
Il y a de la mendicité, il y a des drogués sur certaines lignes, il y a des agressions.
Qu'est-ce que tu veux? On est obligé d'accepter.
Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de transport en commun. Mais on commence par déployer les moyens alternatifs et ensuite, on interdit la voiture. Là, tout ce qui est fait depuis les dernières années, c'est de vouloir chasser les automobilistes, mais sans rien proposer d'autre comme solution en retour.
Je pense que personne ne roule au-delà de 30 km/h dans Paris. Laure l'a dit tout à l'heure, on est entre 11 et 14 km/h de moyenne.
Si vous avez déjà roulé au-dessus de 30 km/h, appelez-nous.
Donc voilà. En revanche, tu vois, il se trouve que je suis d'accord avec toi sur le scandale du prix des stationnements dans Paris. C'est un scandale absolu. Le fait que les artisans puissent plus venir travailler dans le centre de Paris, c'est un scandale. Le fait qu'ils ne puissent plus se garer avec l'histoire des terrasses, là, il n'y a plus une place de parking. Ils ne peuvent même pas venir se garer. Tu as un problème maintenant pour trouver des déménageurs dans Paris. Trouver des déménageurs qui installent un camion, il faut demander des autorisations, je ne sais pas combien de jours à l'avance. Tu bloques des rues entières parce qu'il n'y a plus de place pour se garer. Là, on peut discuter de ça. Là, je suis d'accord avec toi. Les 30 km/h, toi, tu mets ça sur le terrain de l'éradication de la voiture. Moi, je mets ça sur le terrain de l'éradication des accidents inutiles.
Tu l'as dit toi-même, on roule à 11 km/h. Donc, qu'est-ce que c'est une mesure symbolique, idéologique, punitive pour dire la voiture, c'est pas bien?
Merci, Paul, d'avoir été avec nous dans Demain le Chypre. On est avec Jean Barrera, président des Nouveaux Taxis Parisiens. Bonjour, Jean Barrera.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et aux présents autour de la table. Je ne sais pas qui est présent.
Bonjour,
Jean Barrera. Il y a Laure Neumann et il y a Alexandre Devecchio. Jean Barrera, vous qui êtes taxi, est-ce que vous avez déjà roulé à plus de 30 km/h deux jours dans Paris?
Alors, on a une vitesse moyenne du taxi qui est plutôt entre aux alentours de 17 km/h. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la journée. J'ai entendu vos débats sur le fait que la vitesse était accidentogène. Je suis pas trop d'accord sur ce sujet-là. Par contre, on est d'accord que quand on a un accident à 17 km/h ou quand on a un accident à 100 km/h, les dégâts sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des causes d'accident, mais ce sont des causes aggravantes de l'accident, la vitesse.
Très juste.
Donc en ville, aujourd'hui, on doit partager la chaussée avec des piétons, des cyclistes, des trottinettes, plein d'usagers différents. Que la vitesse soit abaissée dans un secteur où il y a beaucoup de trafic et trafic divers avec des vitesses différentes, ça me choque pas particulièrement. Là où on a un problème, nous, c'est un problème structurel de tarification.
Oui.
Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le taxi à Paris en particulier. Nous avons un compteur qui facture au client un tarif au kilomètre et un tarif à l'heure. Le tarif horaire est un tarif d'indemnité pour que le chauffeur passe pas 3 heures dans les bouchons sans qu'il soit payé. Mais c'est pas un tarif qui permet de gagner sa vie normalement. Aujourd'hui, la vitesse qui définit le passage du tarif kilométrique au tarif horaire est 30,2 km/h. Ça veut dire que demain, l'ensemble des taxis parisiens ne pourront plus travailler au kilomètre parcouru, mais à l'heure passée dans leur véhicule. Et ça, c'est un vrai problème structurel. Alors, vous allez me dire, à 30 km/h, on roule pas à Paris, à plus de 30 km/h, on roule pas dans la journée à Paris. Oui, c'est vrai. Mais vous avez des taxis de nuit qui roulent toute la nuit. Et la nuit, on peut rouler à 50 km/h sans aucune difficulté. Et si je fais le calcul entre une baisse, une vitesse moyenne de 50 km/h et une vitesse à 30 km/h, vous avez un taxi qui gagnait à peu près 66 € de l'heure la nuit, qui passe à gagner 39 € de l'heure la nuit. C'est-à-dire qu'il perd 40% de son chiffre d'affaires dans cette affaire-là. Donc on a un vrai problème structurel pour les taxis parisiens.
Alors c'est vrai que la nuit, quand même, on s'imagine mal.
Jean Barrera, d'abord, une question. Dans le dialogue avec la mairie, est-ce que vos arguments ont été entendus? On pourrait très bien imaginer, par exemple, que cette règle des 30 km/h ne s'applique pas la nuit.
Mais
est-ce que vous avez pu en dialoguer avec la mairie?
Je sais pas comment on peut contrôler. Il faudrait que les radars qui sont dans la ville s'adaptent. Et la problématique est pas là. Et d'ailleurs, la mairie de Paris, elle n'est pas responsable de la tarification. On a d'autres structures. En fait, notre profession, elle est gérée par plein de structures en même temps. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Finances, pour la tarification. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un manque de dialogue entre nos différentes structures qui n'arrivent pas à adapter notre profession à la société d'aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème structurel qu'on a.
Ouais, je comprends. Mais et l'autre question que je voulais vous poser, parce que vous connaissez la circulation dans la capitale, mais ce que je dis est vrai à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, à Grenoble, dans toutes les grandes villes de France, est-ce que le fait de rapprocher les vitesses maximales autorisées de la voiture, du cycliste, de la trottinette par exemple, j'imagine d'ailleurs des deux roues motorisées, ça vaudra également pour les scooters, les motos, est-ce qu'au fond c'est pas une bonne idée? Est-ce que c'est pas un facteur aggravant que certains véhicules aillent beaucoup plus vite que d'autres?
Bien sûr, c'est ce que je disais en amont. En fait, quand vous avez une trottinette qui, à un moment donné, vous percute alors qu'elle roule à la même vitesse que vous, vous imaginez bien que les conséquences sont beaucoup moins graves que si le delta de vitesse entre la trottinette et le vélo et le véhicule sont grands. Donc, comme je disais, la problématique n'est pas la vitesse dans un accident, c'est juste un facteur aggravant. Plus le delta de vitesse entre les deux véhicules percutés est grand, plus les dommages sont importants. Je comprends la nécessité de faire rouler tout le monde au pas et à la même vitesse dans une ville, dans une grande mégapole comme est aujourd'hui Paris.
Ça ouvre des problèmes structurels pour les taxis, notamment sur les questions de tarification. Merci beaucoup Jean Barrera d'avoir été avec nous, président des nouveaux taxis parisiens. On va continuer à discuter de ces 30 km/h qui seront en vigueur dans tout Paris, sauf les Maréchaux, le périphérique et les Champs-Élysées.
Certains grands axes comme les Champs-Élysées, toutes les avenues qui partent de l'Étoile par exemple.
Ouais, c'est-à-dire pas grand-chose quand même. Donc en gros, tout Paris aux 30 km/h à partir de la fin août. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann, le chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Après plusieurs grandes villes, la vitesse va être limitée à 30 km/h dans Paris après, à partir de la fin de l'été, vers le 30 août. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative pour Laurent Neumann? Bonne, c'est plus de sécurité et moins de bruit. Pour Alexandre Devecchio, mauvaise, encore de l'idéologie qui paralyse la ville. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann, le chiffre.
32-16. Et je n'ai personne pour aider Laurent dans sa démarche. Non, mais, Philippe est à Martigues.
D'ailleurs, je me pose une question. Parce que mais à chaque fois que Anne Hidalgo, mais c'est vrai pour d'autres maires de ville, prennent des mesures qui sont à ce point impopulaires, à chaque fois je me dis, mais bon sang, mais pourquoi à chaque élection municipale, ces gens-là sont réélus? S'ils prenaient vraiment des mesures impopulaires, ils ne seraient pas réélus. Or, ils sont réélus.
Intramuros à Paris, c'est populaire. Hein.
Vous touchez des doigts. Des problèmes des grandes métropoles en général et de Paris en particulier. Paris n'appartient pas seulement aux Parisiens. C'est la capitale, c'est l'emblème de la France, un rayonnement à travers le monde. Et là, il y a une politique de l'entre-soi total, mais qui est une politique qu'on retrouve effectivement dans les grandes métropoles, avec une population aisée qui n'a pas besoin de la voiture à part pour partir en vacances loin et qui effectivement elle recherche plutôt une ville piétonnisée, etc.
Mais oui, c'est
l'or, tu viens de décrire l'or.
On a un phénomène le mètre carré à 15 000, 16 000, allons-y.
On a un phénomène de sécession effectivement des grandes métropoles avec un mètre carré qui est inapprochable pour les classes moyennes et même, ça a été dit tout à l'heure, les cadres en début de carrière. Donc ça crée, je pense, c'est anti, j'aime pas l'expression vivre ensemble, mais pour le coup c'est vraiment une politique de fracture et en toute bonne conscience, parce que derrière on y met l'écologie, le bien-être, je ne sais quoi. Donc il y a une vraie hypocrisie, mais ça pose un problème, je dirais, d'organisation du territoire, de la France. On le voit, ça participe des fractures françaises que Christophe
avait décrites. Attends, juste une chose, tu seras d'accord avec moi quand même pour me dire qu'aujourd'hui, où on n'est pas encore passé à 30 km/h partout, le vivre ensemble dans Paris, dans la rue, tu repasseras.
Hein. Ben non, mais plus
d'accord.
Ça va.
Donc c'est pas lié aux 30 km/h le vivre ensemble, c'est lié au comportement individuel.
Mais on est bien
individuel.
Dans nos 55 mètres carrés avec les trottinettes.
Je parlais pas de Paris entre Parisiens, je parlais de Paris et le reste du monde. Encore une fois, Paris n'est pas une île et les grandes villes ne sont pas des îles coupées de la France. On est un pays censé être un et indivisible.
C'est beau ce que tu dis. On est avec Philippe qui nous appelle de Martigues, qui est courtier en assurance. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Toi, tu es côté Alexandre Devecchio, pas question de rejoindre Laurent Neumann. C'est une mesure idéologique pour toi.
Oui, alors moi j'ai rien contre la concordance idéologique de Madame Hidalgo, hein, où effectivement dans son programme elle parlait de virer elle envisage de virer
clair,
les voitures.
Hein.
Oui, bah attends, on va appeler un chat un chat. Par contre, alors il y a une triple question que je me pose et à laquelle Laurent pourra peut-être répondre, parce que le fait de rouler à 30 km/h, enfin je sais pas vous avec vos voitures, moi à 30 km/h ou en dessous, je roule en seconde. Donc déjà, en termes d'émissions de microparticules, je suis relativement dubitatif sur l'impact écologique.
Philippe, tu as tout à fait raison, sauf que cette mesure des 30 km/h n'est pas prise pour des raisons écologiques, mais pour des raisons de sécurité routière.
Alors oui, sauf que justement, c'est bien le problème de la décision politique qui se focalise sur un point particulier. Là, en l'occurrence, la lutte contre, pour la sécurité routière. On verra si vraiment il y a un impact, mais une décision a des conséquences directes et indirectes. Et là, comme d'habitude, le politique n'envisage aucune conséquence indirecte. Donc, comme je te disais, l'émission des microparticules. En plus, il me semble quand même qu'en seconde, on consomme un petit peu plus que quand on est en troisième, etc. Et puis, je suis désolé, au niveau du bruit en seconde, tu fais plus de bruit.
Non, mais Philippe, je vais aller dans ton sens, tu vois, ça va t'étonner. Mais il y a une autre conséquence qu'on n'a pas envisagée avec ce passage aux 30 km/h. Aujourd'hui, où les vitesses entre les différents moyens de mobilité sont différentes, les deux roues, vélo ou scooter, s'autorisent à remonter les fils et lorsqu'il y a un feu rouge, à se placer devant les voitures au feu rouge. D'accord. Demain, si toutes les voitures, les scooters, les vélos, les trottinettes vont tous à la même vitesse, il est urgent d'interdire aux deux roues de remonter les fils. Tout le monde se suit puisque tout le monde est à la même vitesse. Et donc là, si on ne fait pas ça, là pour le coup, ça voudra dire que tu as raison, que c'était une mesure idéologique destinée à embêter les automobilistes.
T'y crois deux secondes.
Tu es d'accord avec ça ou pas?
Alors, je suis d'accord. Après, je sais pas comment vous roulez à Paris. Moi, je vois, enfin, le peu de fois où je vais sur...
À Martigues, il y a des embouteillages aussi. Hein.
Ah, absolument pas.
Non,
c'est une petite ville, 50 000 habitants, il n'y a pas d'embouteillage. Par contre, quand tu vas à Marseille et qu'effectivement, tu vois les cyclos, les vélos, les trottinettes...
À Marseille, je pense que c'est pire que Paris.
À Marseille, c'est dur.
Voilà, qui se mettent tous devant. Qui déborde, qui grille les feux rouges, etc.
Bah, imagine que tout le monde soit censé rouler à 30 km/h, tu dois d'urgence interdire à tous les deux roues de remonter les fils. Chacun se suit.
Donc tu vas mettre des policiers à tous les carrefours pour vérifier que les mecs ne grillent pas les feux rouges.
Des caméras.
Bah oui.
Bah, voyons.
Comme ça, tu pourras prendre toutes les voitures qui te roulent dessus au passage piéton.
Moi, Philippe, j'ai la faiblesse de penser que quand on prend une décision, un arrêté municipal, on vote une loi, etc., on doit quand même s'enquérir un tout petit peu de savoir si elle peut être appliquée.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On est avec Zev qui nous appelle depuis Paris, qui est retraité d'une société. Bonjour Zev.
Bonjour.
Toi, tu ne roules qu'en voiture.
Bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, moi je roule en voiture. Déjà, juste en préambule, pour passer de la porte de Clignancourt à la porte de la Chapelle, il faut aujourd'hui une heure.
Ouais.
Quand on est sur les extérieurs, une heure, tout ça parce qu'il y a des travaux en permanence, que ça roule jamais, etc. Pour aller de la place de la République à l'avenue de Versailles, il faut quasiment une heure et demie parce que ça roule nulle part. Donc je suis très surpris qu'on prenne des mesures encore supplémentaires. Rouler à 30 km/h, c'est faire entrer de l'argent dans les caisses de la mairie de Paris, tout simplement. Parce qu'en fait, on pourra rouler au-dessus quand effectivement on n'aura pas besoin, il n'y aura plus d'embouteillage, il n'y aura plus rien. Et systématiquement, comme les trois quarts des fois on se fait attraper, c'est parce qu'on est 5 ou 10 km au-dessus de la moyenne et qu'on va se faire... Donc on va avoir des PV de 90 euros, voire 135, voire je sais plus combien, parce que bon, en général, je les paye jusqu'à 135.
Non donc mais voilà, Zev, il se trouve que je suis automobiliste à Paris, que je suis le premier à déplorer ce que tu décris avec précision. Je suis même le premier à déplorer que n'habite plus dans Paris aucune infirmière, aucun plombier, aucun maçon, aucune profession intermédiaire. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer et a fortiori d'acheter un appartement à Paris ont déserté. Paris se vide de 15-20 000 habitants chaque année depuis des années. Les crèches et les écoles se vident. C'est quand même extraordinaire. Donc je suis le premier à déplorer ça. Mais ça n'a rien à voir avec cette décision de passer aux 30 km/h. Il y a plein d'explications.
Ça fait monter le mètre carré.
Ce qui a fait monter le mètre carré, c'est de piétoniser.
Mais c'est pas pareil.
On est dans la même direction. C'est de l'hypocrisie. Oui. En plus, on n'en assume pas les décisions. Arrêtons de faire croire que ça a un rapport avec la vitesse. Ça n'a aucun rapport avec la vitesse. On l'a dit 10 fois, et tu l'as dit toi-même, qu'on roulait à 11 km/h à Paris. Donc, effectivement, c'est peut-être une taxe supplémentaire, un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie de Paris, et c'est surtout une mesure qui vise à éradiquer la voiture et à faire à terme de Paris une ville purement piétonne, mais une ville qui sera réservée à une certaine catégorie de personnes. Et je trouve ça dommage pour la capitale de la France et même pour toute ville, toute grande métropole. Je suis pour la mixité, moi, Laurent Neumann.
Mais lui aussi, il va pas te dire le contraire non plus. Merci beaucoup, Zev, d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. Quel est le résultat des votes, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 85% à trouver que c'est 30 km/h en ville, c'est une mauvaise initiative, ce qui veut quand même dire, Laurent, que 15% trouvent comme toi que c'est une bonne initiative.
Ah, c'est bien ça, 15%, Laurent.
Ah, 15 km/h.
Il va bientôt se rattraper au C'est quoi ça.
C'est son moment préféré. Tu sais qu'il révise pour le C'est quoi ça. C'est parti.
RMC Neumann le Chypre.
Le C'est quoi ça.
Et on joue aujourd'hui avec Simon et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour l'équipe.
Simon, tu es à la molette. Est-ce que tu veux jouer avec Laurent ou avec Alexandre?
Bah avec Laurent, bien évidemment.
Salut Simon.
Parce qu'il vient de se prendre une sacrée défaite, donc c'est pour lui remonter
le moral. Tu sais, dès qu'on parle de la vitesse sur les routes, je sais que j'ai perdu d'avance.
Toi, t'es à Châteauroux, tu joues donc avec Alexandre. On joue pour gagner un week-end dans les hôtels Baladins. C'est parti. Première question entre Simon et Christophe. On buzz avec son prénom avant de donner sa réponse. Ils se dérouleront finalement sans spectateurs.
Christophe. Les Jeux Olympiques à Tokyo.
Oui, absolument, à cause du Covid, évidemment. Deuxième question entre Alexandre et Laurent. Le gouvernement recommande aux Français qui n'ont pas encore réservé leurs vacances d'éviter...
Alexandre, Espagne, Portugal.
Oui, bravo, il est en forme. zinzin, il est réveillé. C'est un retour de flamme, Alexandre.
Je pense que tu viens de dépasser le 30 km/h.
Question entre Simon et Christophe. Il a porté plainte contre Facebook, Twitter, Google et leur patron, les accusant de censure illégale. De qui s'agit-il?
Christophe. Donald Trump.
Oui, bravo. 3 points pour Christophe.
Alors attends, Simon, je crois qu'il faut qu'on se réveille.
Alors là, je l'avais pas du tout, mais j'essaie de rouler à 30, c'est pour ça.
Ah, c'est bah pour ouais. Ça, bah, t'es comme moi, voilà.
Question entre Laurent nous. Et Alexandre. Quel laboratoire américain préconise une troisième dose?
Laurent. Pfizer.
Il y était au bluff, j'ai failli faire la même chose et il est plus expérimenté que moi.
Premier point, bravo. Question entre Simon et Christophe. Quel footballeur international espagnol a rejoint le PSG?
Christophe. Sergio Ramos.
Oui, absolument. 4 points pour Christophe. Question entre Alexandre et Laurent. Quel pays s'est engagé à rendre des œuvres d'art volées à la République du Congo pendant la
Laurent,
période
Christophe,
la France. Je ne sais plus comment s'appelle.
Non, la Belgique ou la France?
Ah ben là, tu choisis.
La Belgique.
Belgique.
Bien joué.
Okay.
Ouais.
On est à 2 points. Alors, Alexandre, je rappelle que tu t'appelles Alexandre. Et donc, que tu dois baiser avec ton propre prénom et pas celui des autres. Dernière question entre Simon et Christophe. Quel célèbre plombier, star des jeux vidéo Nintendo, fête ses 40 ans? Christophe.
Super Mario.
Oui, c'est Christophe qui gagne.
Simon, je crois qu'on s'est écrasé là.
Ouais, mais là, ils sont en excès de vitesse.
Largement.
Ils sont dopés.
Je pense qu'ils sont dopés, t'as raison.
Clairement. Merci beaucoup à tous les deux. C'est donc Christophe qui gagne son séjour dans les hôtels Baladins.
Bravo Christophe.
Merci.
Dans un instant, vous restez avec nous. On va parler de certaines villes comme le Touquet, Saint-Malo, qui remettent en place le masque à l'extérieur face au variant Delta. Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? Pour Laurent Neumann, c'est oui. En attendant que tout le monde soit vacciné, c'est la mesure la plus efficace à comprendre. Pour Alexandre Devecchio, non, on dramatise. C'est une mesure totalement inefficace. Est-ce que vous êtes prêt à remettre le masque? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, on est toujours ensemble et je suis très heureux de continuer à débattre avec vous. C'est Laurent Neumann.
Salut tout le monde, c'est Alexandre Devecchio. Très heureux également d'être avec vous et de débattre avec Laurent.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Touquet, Saint-Malo, Nice, certaines villes remettent en place le masque à l'extérieur. Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? Ça sera notre sujet tout à l'heure, enfin dans un instant, quoi, à 13h50. C'est bon à savoir, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa-Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa-Marie, aujourd'hui?
On va parler de notre comportement au volant avec le téléphone et je peux vous dire qu'on est vraiment, mais alors vraiment pas exemplaire.
C'est clair, c'est nul.
Moi, je suis.
Ah, toi, tu te comportes bien. Bon, t'as des preuves?
Non, aucune.
Le masque en extérieur, vous croyez en être débarrassé pour de bon, symbole d'une épidémie qui baisse, des contraintes sanitaires qui se desserrent. Enfin, dans la rue, on pouvait respirer sans oublier de le remettre dans les files d'attente ou en rentrant dans les boutiques. Oui, mais voilà, face à l'affluence des touristes, certaines villes ont déjà décidé de revenir en arrière. Le masque est désormais obligatoire au Touquet, à Saint-Malo. Dans l'Hérault, la préfecture a listé fait une très belle liste, des rues bondées, des zones piétonnes très fréquentées. À Nice, le maire Christian Estrosi l'a expliqué ce matin sur Europe 1. C'est le retour des mesures sanitaires. On l'écoute.
Je suis en train de regarder quels sont les secteurs qui nécessitent qu'ils soient imposés. Et nous allons l'imposer. Nous renforçons aussi nos caméras de vidéosurveillance en y ajoutant des haut-parleurs et des projecteurs comme ceux qu'on trouve sur les matchs de foot. Les plages sont interdites à partir de 21h.
Retour du couvre-feu sur les plages à 21h quand même à Nice. Alors face à ces nouveaux cas, rue par rue, est-ce qu'il faut, je vous le refais, j'ai beaucoup de mal, il faut que j'aille me coucher.
C'est l'idée de remettre un masque.
Ah ouais, l'idée de remettre un masque dehors, ça me fait du mal. Bah oui. Alors, est-ce qu'on reste dans le cas par cas, rue par rue, ou est-ce qu'il faut remettre le masque partout en extérieur? C'est notre question. Laurent, tu dis oui. Nouveau du mal?
Non, mais attends, ne fais pas croire aux gens que c'était je suis méchant. Content qu'on remette le masque, tu vois. Moi aussi, ça m'ennuie le masque partout d'ailleurs. Mais très honnêtement, personne n'a envie qu'on referme les magasins. personne n'a envie qu'on reconfine ou qu'on mette des couvre-feux.
Ouais.
D'accord ? Jusque-là, tout va bien ?
Ça va, oui.
Très bien. J'imagine que personne n'a envie qu'on rabaisse les jauges de clients dans les magasins, les restaurants, etc. Bon. Donc, le port du masque, c'est quand même le truc le plus simple qui soit. Tant qu'on n'est pas vacciné. Et en plus, il se trouve qu'Alexandre Devecchio, il est contre l'obligation vaccinale, il est contre les contraintes pour les non-vaccinés, il est contre tout. Et là, il peut pas être contre, normalement, le port du masque. Le port du masque, c'est tout bête. C'est le geste barrière idéal en attendant que tout le monde se fasse vacciner. Donc, oui, si ça peut être, s'il faut trouver une solution qui est la moins douloureuse, c'est encore celle-là, même si je le dis, ça, j'en ai marre de voir les gens avec des masques.
Alexandre.
Je ne crois pas une seconde que le port du masque en plein air va faire baisser la circulation du virus. Je pense que c'est une mesure simplement, ça nous prépare sans doute à d'autres mesures encore plus dures et encore plus chiantes. Pardonnez-moi l'expression. C'est une manière, on a compris, c'est une manière de nous conditionner, de nous rappeler comme si on était idiots et comme si on n'en parlait pas 24 heures sur 24 sur tous les médias que on est en période de pandémie. Je pense que les Français ont compris. Quand ils sont dans des endroits bondés, ils mettent le masque d'eux-mêmes. Donc je suis pas certain que le masque à la plage soit réellement nécessaire. D'ailleurs, tous les médecins disent que sur le plan sanitaire, c'est une aberration.
Ouais, mais alors attends, mettre le masque en plein air si t'es sur une plage, si t'es en forêt, si t'es à la montagne, à la campagne, etc. Oui, c'est ridicule.
Bah tu te fiches du monde, c'est ce que tu dis.
Mais
tu
non.
Dis, bah si tu dis le masque extérieur pour tout le monde.
Bah écoute-moi. En revanche, les maires qui ont pris ces décisions-là, qui disent dans les centres-villes, on remet le masque parce qu'on côtoie beaucoup de gens, a fortiori pendant la période de vacances où viennent des touristes de toutes les régions, pas seulement des touristes étrangers, des touristes de toutes les régions. Bah oui, et d'ailleurs c'est intéressant, quelles sont les villes qui ont pris ces décisions-là? C'est essentiellement des villes côtières, des villes de vacances, etc. Il y a quand même une exception, j'ai vu que le préfet du Cantal avait imposé le port du masque jusqu'au 31 juillet partout en extérieur, dès lors qu'on est, alors il a listé, hein, il a dit près des crèches, près des lieux de culte, dans les files d'attente, sur les parkings des commerces, des supermarchés, etc. On n'attend pas d'être dans le magasin comme on côtoie beaucoup de gens sur les parkings, on met le masque. C'est du bon sens, quoi. Voilà, on met pas le masque sur une plage, mais en revanche, quand on est dans une file d'attente, on le met. Bah, peut-être qu'il faut le dire aux gens. Voilà, tout simplement.
Ouais, on n'est pas à l'abri d'une décision un peu débile qui te demande justement de mettre ton masque sur la plage.
Sur la plage, oui.
J'avoue que...
Eh bien, je serai là pour le déplorer.
Très bien, super. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, je vous rappelle notre question. Face au variant Delta, faut-il généraliser le retour du masque à l'extérieur? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Jérôme, notre mécanicien bowling. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous, comment ça va?
Quel temps il fait à Saint-Laurent-du-Var?
Laurent, je suis à Villeneuve-Loubet. Bon,
ah,
je suis juste à côté.
Bon, ça va, c'est pas loin. Hein.
Mais oui, voilà. Donc, il fait beau, il fait chaud. Partout dans les t-shirts et les maillots, comme on dit.
Bon, prépare.
Qu'est-ce qu'il fait chaud dans les masques?
Prépare le pastis, on arrive.
Eh oui, t'inquiète, l'eau est au frais, le pastis est là.
Bon, ça va. Bon, t'es pour le masque ou contre?
Alors, moi, malheureusement, bien sûr, je suis pour le masque.
Bah oui. Malheureusement, tu es pour.
Je m'explique, en effet, pourquoi je suis pour. Déjà, en effet, l'arrivée de touristes commence à se faire sentir aussi bien sur les routes que dans les rues, pardon. On commence vraiment à avoir beaucoup de Français, beaucoup de touristes étrangers arrivés. Et moi, personnellement, ça commence à m'inquiéter un peu à cause du variant. Bien entendu, on entend dans tous les sens que ça ne sert à rien à l'extérieur parce que on se transmet ça d'une manière de micro-gouttelette et tout. Mais je suis d'accord là, par contre, avec Alexandre, que je salue d'ailleurs. Je considère en effet que ça va nous amener en fait à des mesures beaucoup plus restrictives par la suite. C'est le début de quelque chose. Il y a un petit frémissement là. On sent en effet qu'on va se faire avoir. Et il faut peut-être commencer à réhabituer les Français au port du masque à l'extérieur. Parce qu'il va y avoir autre chose.
Non mais Jérôme, si on vivait dans un monde idéal, ce qui n'est pas le cas, Mais on pourrait, on devrait imposer le port du masque à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent pas se faire vacciner.
Ah, voilà une autre question.
Moi, bah oui, sauf que
faut-il obliger le masque à ceux qui ne sont pas vaccinés?
Mais oui, mais sauf que c'est pas possible parce qu'on va pas arrêter les gens dans la rue en leur disant attendez, vous avez pas de masque, vous avez le vaccin. Non, c'est pas possible. Donc c'est ou pour tout le monde ou pour personne.
Je suis d'accord. Alors moi, personnellement, là, je vais me faire vacciner là aujourd'hui à 14h30 parce qu'en plus, je vais partir en Corse dans pas longtemps. Donc, je crois que c'est obligatoire, d'ailleurs, le passeport sanitaire, ou ça va bientôt l'être, de toute façon. Et je me prépare à l'avenir, puisque là, je vois là sur les réseaux, quand je mets ensuite mes petits commentaires sur Neumann Le Chypre, je me fais incendier un peu dans tous les sens parce que je suis endoctriné par l'État, je me suis fait laver le cerveau, etc., etc. Mais les personnes, en fait, qui vont pas se faire vacciner, vont être les personnes qui vont se retrouver à l'hôpital, en fait, et qui vont pleurer, ou alors ça va être leur famille qui vont pleurer. Ou alors ils vont contaminer, alors peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, on ne sait pas, en fait, de quoi va être fait demain, là, à l'heure actuelle. Est-ce qu'il même, il va y en avoir encore un nouveau de variant, ça sera plus le Delta, ça sera le je ne sais pas quoi. Donc je prends mes précautions pour éviter, moi, d'être contaminé gravement. Et oui, bah malheureusement, vu que tout le monde ne le fait pas, nous allons être dans l'obligation de revoir le port du masque à l'extérieur. Mais encore une fois, je ne suis pas pour. C'est juste malheureusement obligatoire, en fait. Ça va
Alexandre,
être nécessaire.
Toi qui es contre. Le port du masque en extérieur.
Je ne suis pas contre la vaccination, oui.
Mais contre pas contre la vaccination, contre le port du masque en extérieur.
Contre le port du masque en extérieur. Mais moi, je vois ce qui se passe ailleurs aussi. Enfin, il y a des pays dont on ne parle plus du tout. Hein. La Suède, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un nous fasse le bilan final de ce qui s'est passé en Suède. Je remarque que c'est passé totalement à la trappe médiatiquement. Il y a des pays dont on parle un peu, comme le Royaume-Uni, où tout le monde est vacciné, où le vaccin, où le virus continue à circuler, parce qu'on rappelle qu'il circule avec le vaccin, donc il circule beaucoup en ce moment en Grande-Bretagne. Mais Boris Johnson a décidé que maintenant on allait vivre avec le virus et qu'on pouvait tomber le masque partout, y compris à l'intérieur. Moi, je crois que c'est plutôt vers cela qu'il faut se diriger. Je crois que la campagne vaccinale fonctionne, elle va continuer à fonctionner et qu'il faut maintenant habituer les gens, non pas à avoir des réflexes de temps de pandémie, mais à retrouver un peu de liberté, de libre arbitre. Et je pense que c'est plutôt ça qui m'intéresse, qu'on soit pas tous conditionnés, peureux et comme des robots à cause de cette épidémie.
Bien sûr, on est tous comme des robots, tu parles. Par contre, je t'engage à faire preuve d'une immense prudence, Alexandre, en prenant des exemples à l'étranger. Parce que depuis un an et demi, on a cessé de prendre des exemples à l'étranger.
On prend généralement ceux qui nous arrangent.
Et on prend plein d'exemples à l'étranger. Et à chaque fois, on se rend compte que finalement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'avait dit. Hein. On disait, ouais, Israël, génial. Mais Israël, formidable. Ils sont allés tellement vite sur la vaccination. Et puis, comme par hasard, tiens, on se rend compte que ça plafonne aussi. Ils sont à 65% de vaccinés et qu'eux non plus, ils n'arrivent pas à convaincre les 35% qui restent. Et pire que ça, ils sont en train de réintroduire le masque dans tous les lieux publics. Dans tous les lieux publics. Sans exception, alors que le masque avait disparu. Bah oui, parce que tout le monde s'adapte, figure-toi. Alors, je sais que c'est une grande spécialité française de dire que c'est toujours mieux ailleurs que ce qu'on fait chez nous.
C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis.
On n'arrive pas à dépasser un palier.
Évidemment.
On est avec le maire du Touquet, Daniel Fasquel. Bonjour, merci d'être avec nous dans Neumann Le Chypre. Vous avez remis en place le masque à l'extérieur. Ça a été accueilli comment ?
Écoutez, ça a été accueilli très, très simplement et très favorablement. Vous savez, le masque est obligatoire au Touquet uniquement dans l'hypercentre, dans un secteur qui est identifié, et les jours de marché. Donc, ça facilite la vie de tous, parce que comme le port du masque reste obligatoire dans les commerces, c'était compliqué de ne pas avoir le masque en vie, de le remettre dans les commerces, les commerçants me le disaient. Donc, c'est une mesure de clarté, de simplification, et ça rassure aussi les habitants à l'année, les visiteurs, et ça ne concerne que 5% du territoire de la commune, moins de 5% du territoire de la commune.
Oui, Daniel Fasquel, rassurez Laure, qui a très très peur que des maires imposent le masque sur la plage. C'est pas sur la plage en l'occurrence, c'est dans les rues, auprès des commerces, là où il y a du monde.
En fait, le point de départ, si vous voulez, c'est un arrêté du préfet qui me demandait d'imposer le masque dans les rues piétonnes en cas de forte affluence. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la forte affluence. Donc, j'ai pris un deuxième arrêté qui complète l'arrêté du préfet et qui simplifie, qui clarifie les choses. On a un périmètre très restreint en cœur de ville, dans l'hypercentre, où effectivement il peut y avoir une fréquentation très très forte. Mais je vous dis, ça correspond à moins de 5% du territoire de la commune. Sur la plage, dans les dunes, dans la forêt, on n'a pas d'obligation de port du masque.
Et il y a un panneau devant les rues concernées ?
Il y a un panneau devant les rues concernées. J'ai embauché des jeunes en service civique qui sont une quinzaine, qui sont là pour vous renseigner. Ils ont des masques dans la poche si vous avez oublié de prendre votre masque. Et ça se passe avec le sourire, de façon très décontractée. Et moi, j'ai très bon retour de la population, des visiteurs, des commerçants. D'autant plus que vous voyez que, malgré tout, il y a quand même un variant nouveau qui est très contagieux. Il y a une reprise de l'épidémie dans certains pays. Donc les gens sont aussi inquiets. Et ça contribue aussi à les rassurer et à se dire qu'ils peuvent venir passer ici des vacances en toute sécurité.
Et puis, il y a un autre message, Daniel Fasquelle. Si les gens en ont marre de porter le masque, c'est mon cas, moi aussi j'en ai marre de porter le masque, mais allez vous faire vacciner.
Mais oui, mais
quand
ça
tout le monde sera vacciné.
Mais c'est trop facile de dire ça.
Ah bah oui.
Vous avez raison de dire ça, parce que justement, moi j'ai maintenu mon centre de vaccination ouvert pendant tout l'été. Je me suis battu avec d'autres pour que le gouvernement accepte qu'on puisse faire sa deuxième injection dans un autre lieu, notamment dans son lieu de vacances. Donc, ceux qui, effectivement, ne veulent plus porter le masque, on les invite à se faire vacciner. Et j'ai fait une proposition avec les bars ambiance musicale demain. Avec les bars, les bars de ma commune.
Un mojito, un vaccin?
Non, qu'on applique le pass sanitaire dans les discothèques, qu'on l'applique aussi dans les bars.
C'est une demande des discothèques, hein.
Les patrons de bars, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, parce que quand on rentre dans le bar, on doit porter le masque dès qu'on se déplace. Alors forcément, les gens prennent un verre, parfois ils sont un peu debout, il faut qu'ils les rappellent à l'ordre. C'est compliqué qu'on applique le pass sanitaire de la même façon que dans les discothèques. C'est-à-dire que vous rentrez dans un bar, vous êtes déjà vacciné, vous avez un test, bien vous n'avez pas l'obligation de porter le masque dans l'enceinte du bar, et ça simplifierait la vie.
Oui, mais Daniel Fasquelle, c'est très simple, Daniel Fasquelle, de contrôler les gens qui entrent dans une discothèque. C'était déjà le cas avant cette pandémie. Là, ça obligerait les patrons de bar, les patrons de restaurants, les patrons de cafés, etc., à faire la police à l'entrée de leurs établissements. C'est beaucoup plus compliqué, non ?
Je vous parle des bars ambiance musicale, c'est-à-dire ce sont des bars qui ont forcément des videurs à l'entrée, qui sont des bars qui ouvrent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, qui sont en fait un maillon entre le restaurant, le bar classique, et puis les discothèques. Moi, j'en ai plusieurs dans ma commune, et ils font cette demande que j'appuie, qu'on leur applique le même régime qu'aux discothèques. D'accord. Ça simplifiera la vie des clients et des patrons.
Merci beaucoup, Daniel Fasquelle, d'avoir été avec nous, maire du Touquet, à qui on souhaite un bel été, bien tranquille sur les plages du Touquet. On va continuer à discuter ensemble du masque à l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'il faut le remettre en place ? C'est déjà le cas dans pas mal de villes, dont le Touquet, dont on vient d'écouter le maire. À l'instant, on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chip. RMC, midi 15h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Le Touquet, Saint-Malo ou encore Nice, certaines villes remettent en place le masque à l'extérieur. Face au variant Delta, est-ce qu'il faut généraliser cette mesure ? C'est notre question jusqu'à 14h. Pour Laurent Neumann, c'est oui. En attendant que tout le monde soit vacciné, c'est la mesure la plus efficace et la plus simple à comprendre. Pour Alexandre Devecchio, non, on dramatise et c'est une mesure totalement inefficace. Lisa Marie, quelle est la première tendance ?
Vous n'avez pas très envie de remettre le masque dans la rue ? Vous êtes 65% à répondre non. Il ne faut pas généraliser le retour du masque à l'extérieur.
Alors, très intéressant ce résultat, parce que ça confirme le sondage Elab qui est paru il y a 48 heures et qui dit qu'une grande majorité de Français ont l'intention de ne plus respecter les gestes barrières, en tout cas de moins les respecter. C'est-à-dire que les gens en ont quand même par-dessus la tête.
Et on les comprend, les gens. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Jean-Pierre, qui est chef de projet, qui nous appelle depuis Talais, en Gironde. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que le masque est obligatoire à l'extérieur à Talais ?
Oui, j'espère qu'il sera obligatoire.
Ah, donc t'espères ?
Oui, moi je suis d'accord avec Laurent.
C'est bien, tu peux rester alors.
Pas passé. Pour moi, le masque, c'est le premier geste barrière. J'ai travaillé pendant la pandémie, le pic de la pandémie.
Ouais.
J'étais dans le Nord en plus. Et je trouvais que c'était... J'ai vu beaucoup d'amis, de collègues de travail qui ont eu de la pandémie, qui ont eu le Covid de longue durée, qui ont vraiment du mal à se remettre. Donc pour moi, je suis entièrement d'accord pour le masque.
Ouais, surtout que ceux qui sont le plus en désaccord avec ces mesures-là de port du masque à nouveau sont comme par hasard des gens qui ne veulent pas se vacciner. Donc, vaccinez-vous,
oui, moi, je suis
si
vacciné
vous voulez.
Et je mets le masque.
Bah, évidemment.
Je travaille dans l'industrie automobile, je fais beaucoup de déplacements en France et je continue à mettre le masque. Les premiers gestes barrières, pour moi, sont importants.
Je pense que tu as raison.
On est avec
une ville qui s'appelle Soulac, à côté de chez nous. Ouais. Et quand j'ai vu que c'est bombé, donc Soulac est très petit, Soulac-sur-Mer, où il y a une rue piétonne bombée, ils rentrent dans les magasins sans masque, je trouve ça inadmissible.
Ah oui, mais là, c'est carrément interdit, puisque aujourd'hui, tu dois quand même, dès que tu rentres dans une boutique, mettre ton masque. On est avec Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo. Bonjour Gilles Lurton.
Oui, bonjour.
Vous avez remis en place le masque en extérieur. C'était une nécessité ?
Alors, c'est un arrêté du préfet qui a été prolongé au mois de juin jusqu'au 5 juillet et qui, après le 5 juillet, a été reprolongé jusqu'au 25 juillet prochain, uniquement pour l'intérieur de la vieille ville, c'est-à-dire à l'intérieur des remparts et sur les remparts, dans la ville close.
Donc, comme au Touquet, vous avez un système de panneaux, il y a des gens qui font des rappels ?
Voilà, tout à fait. On a un système d'information aux entrées de ville. Vous savez, nous avons des remparts à Saint-Malo qui ferment la ville. Et donc, à chaque entrée des remparts, vous avez un grand panneau d'information. Ce sont des bâches que nous avons montées sur des armatures qui rappellent l'obligation du port du masque. Je trouve que autant à la fin du mois de juin, les gens avaient envie d'être libérés, de ne plus le porter. On avait beaucoup de mal à imposer la réglementation. Autant aujourd'hui, les choses sont différentes et les personnes qui visitent notre ville ou les habitants de Saint-Malo sont beaucoup plus respectueux du port du masque.
Et oui, mais c'est la question que j'allais vous poser. Saint-Malo, il y a beaucoup de touristes de façon générale, des touristes français, des touristes étrangers. Il n'y a pas de problème de pédagogie à faire. Les gens sont respectueux globalement.
Il faut faire de la pédagogie, mais je pense qu'il y a une certaine habitude qui a été prise. Vous savez, la première mesure de port du masque que j'ai prise, je l'ai prise le 14 juillet 2020. J'étais la première ville à imposer dans la ville close. Depuis, nous n'avons pas pu arrêter parce que la crise n'a pas cessé un seul instant. Et aujourd'hui, il y a une habitude de port du masque qui est très forte. Je vois bien que l'arrivée du nouveau variant, le variant Delta, même si on n'est pas très sûr de nous sur ce sujet, à l'heure actuelle, inquiète les gens et les personnes qui sont dans notre ville portent beaucoup plus de masques aujourd'hui qu'ils ne le portaient à la fin du mois de juin.
Donc peut-être que le deal port du masque dans le centre-ville, mais pas sur la plage, pas en extérieur, mais juste quand il y a du monde, ça fonctionne.
Ça semble, mais c'est jamais simple. Hein, mais ça semble bien fonctionner.
Merci beaucoup, Jules Lurton, d'avoir été avec nous, maire de Saint-Malo. On va retourner au 32-16. On était tout à l'heure avec Jean-Pierre, qu'on remercie depuis Thalère. On était avec Benoît, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour.
Toi, tu es vacciné 2 doses et tu n'as pas du tout envie de porter le masque en extérieur.
Non, alors déjà, je n'ai pas envie de porter le masque du tout. Oui. Je travaille en galerie marchande. Mm-hmm. Je vis ça depuis 14 mois. Mon personnel vit ça depuis 14 mois. À aujourd'hui, on nous a dit « ça va nous vacciner, ça va nous promettre des jours meilleurs ». Comme nous, on nous a confinés, fermés pendant 7 mois, ça va nous promettre des jours meilleurs. On s'aperçoit que tout comme c'est, il faudrait tout simplement avoir le courage politique aussi. Mais les gens qui ne sont pas vaccinés, eh bien, on les confine ou on les oblige à porter le masque. Et une autre solution aussi, tout simplement, parce que celle-là, elle est quand même radicale. Là, aujourd'hui, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur choix. Par contre, si on les confine, il faut arrêter de quoi qu'il en coûte et les payer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes cas contact, vous êtes arrêté pendant 7 jours, mais l'État vous paye encore.
Ah oui, ça, Benoît, c'est le débat qu'on avait hier, en l'occurrence. Toi, tu es favorable à ce qu'on mette des contraintes spécifiques sur les gens non vaccinés. Le problème, c'est que imposer le port du masque, c'est la question que je posais tout à l'heure, uniquement aux non vaccinés, c'est totalement inapplicable au quotidien. Comment on va faire la distinction? On ne va pas demander aux gens dans la rue s'ils ont un vaccin ou pas.
Il y a peut-être tout simplement aussi la solution de laisser le libre choix aux gens. On en parle depuis 14 mois, on dit on infantilise le français, mais peut-être que la solution c'est le libre choix aux gens. Si la personne elle se sent à risque, qu'elle a envie de porter le masque, qu'elle le porte. Moi quand je rentre dans les galeries marchandes, je peux vous assurer qu'à aujourd'hui, dimanche j'ai travaillé avec mon épouse dans un de mes magasins, à un moment donné on était tous les deux, il n'y avait pas de clients. Les vigiles sont arrivés en nous faisant « mettez le masque ». Alors on a dit « écoutez, on est vaccinés, on est mariés, excusez-nous, mais là on risque pas grand-chose ». Quand il y a les clients, on essaye de le respecter. Même les clients, vous savez quoi, les 3/4 du temps dans les galeries marchandes, ils ont le masque en dessous du nez, voire sous le menton. Les gens n'en peuvent plus. Par contre, aujourd'hui, tout le monde a peur, pas de la maladie, peur de l'amende, peur. On va laisser libre le choix aux gens. Si la personne, elle a peur qu'elle est à risque, qu'elle n'est pas vaccinée, qu'on lui laisse son libre arbitre à elle-même.
Je suis d'accord.
T'es d'accord, Alexandre?
Moi, je suis d'accord avec ça, d'autant plus que contrairement à Laurent, mais peut-être que je me trompe, que je vais être démenti par les faits, c'est toujours compliqué de se prononcer, mais que l'épidémie est à peu près maîtrisée. Je pense que toutes les mesures qui ont été mises en place ont été notamment mises en place parce qu'on n'avait pas la capacité hospitalière d'accueillir les gens pour pas emboliser l'hôpital. Il me semble que là, il y a pas de risque, en tout cas pour le moment à ce niveau-là, parce que même si les contaminations augmentent, le taux d'hospitalisation, on le rappelle, diminue. Donc moi, j'aime bien aussi qu'on n'infantilise pas les gens et je pense que oui, il faudrait revenir à un minimum de libre-arbitre et j'ai envie de vous dire, on n'interdit pas le tabac, la cigarette, le fait de boire, etc. Et on met aussi à long terme peut-être sa santé en danger. J'ai pas envie demain d'une société totalement aseptisée, hygiéniste, où on explique à chacun comment il doit se comporter. Je pense que c'est une des dérives. Alors je sais bien, Laurent Neumann est devenu, j'ai pas parfois l'impression de parler au parti de l'ordre avec lui. Il est pour les limitations de vitesse, le port du masque. Alors la vaccination obligatoire ou je sais pas très bien, bah, ça s'en rapproche. Voilà, au bout d'un moment, ça devient gonflant. Ouais.
Bon, je te prends pas au pied de la lettre parce que les gens nous voient pas, on est en radio. Mais quand tu as dit partie de l'ordre, même toi, tu t'es fait sourire toi-même tellement tu n'y crois pas. Non, pardon, ça s'appelle le cynisme.
C'est celui que je souris parce que c'est un paradoxe.
Non, mais surtout, c'est un paradoxe.
Sauf pour la sécurité dans les banlieues, là, non, tu n'es pas pour le parti de l'ordre.
Tu sais ce que j'en pense. Se faire vacciner ou porter le masque dans les lieux où il peut y avoir circulation du virus et donc danger, je pense que c'est juste une question de responsabilité individuelle. Je fais même partie de ceux qui ne peuvent pas s'en remettre 24 heures sur 24 à l'État. C'est la responsabilité individuelle. Toi-même, tu as dit hier, c'est du patriotisme d'aller se faire vacciner. Allez, je ne vais pas aller aussi loin. C'est juste du civisme. C'est juste s'occuper un peu de son voisin, de soi-même et de son voisin. Voilà. Je ne dis pas plus que ça et ça, pardon.
Mais faisons confiance à la liberté individuelle et peut-être que finalement, on verra que c'est plus efficace que ce bourrage de crâne permanent.
Oui, mais tu es le premier à nous dire, à expliquer dans le journal où tu collabores, excellent journal d'ailleurs, qu'il y a des droits et des devoirs.
Oui, mais justement. Voilà. Eh ben, donc, oui, mais sur les mesures de
la liberté individuelle
sur la question du Covid,
si on applique les droits
sur la question
et les
du Covid, on est sur des libertés, je dirais presque naturelles. On est en train de remettre en cause des libertés naturelles. On n'est pas dans un cas de délinquance, de violence envers autrui. Oui, c'est la liberté de circuler, c'est quasiment une liberté.
La délinquance.
Ça n'a rien à voir avec la délinquance. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation de pandémie. On a pu prendre des mesures d'exception.
La délinquance.
Mais ça doit rester des mesures d'exception.
La délinquance n'a pas fait 110 000 morts en un an. Hein.
Ouais, elle en fait depuis des années des morts. On peut compter.
Très bien. Donc, porter le masque ou pire, aller se faire vacciner, c'est du civisme. Toi qui défends les libertés individuelles,
j'ai pas dit que c'était
défends les droits et les devoirs.
C'est du civisme, mais ça doit relever de la liberté individuelle.
Allez, on va recentrer le débat sur la question du masque. Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous. On était avec Anna. Anna, toi tu es agent immobilier à Cannes, tu ne comptes pas te faire vacciner. Est-ce que tu es prête à reporter le masque ?
Oui, sans problème.
Bah, et pourquoi ?
C'est pas un argument, tu te dis pas tiens comme disait Laurent, c'est un mais pourquoi tu veux faire ça ? Et c'est pas un argument pour te dire tiens, je vais me faire vacciner.
Pas du tout parce que le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid ni de le transmettre.
Oui, mais le vaccin t'empêche d'être très malade, voire de mourir de la maladie, ou pire, de la transmettre, et donc de faire en sorte que d'autres que toi tombent gravement malades et soient hospitalisés, voire en meurent.
Pour moi, le vaccin n'empêche pas de transmettre le Covid.
C'est vrai.
Donc voilà. Donc si je porte mon masque et respecte les gestes barrières, je ne vois pas de problème. Pour moi, le vaccin, ça doit rester un choix. Ça doit pas être une obligation de se faire vacciner.
Bah,
on n'a pas assez de recul.
D'abord, aujourd'hui, c'est pas une obligation. Voilà. Moi, je considère que ça doit pas être obligatoire, mais qu'en revanche, c'est un devoir. Voilà. Et si on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres.
Moi, ce que je fais pour les autres, c'est que je respecte les distances, je porte mon masque, je me lave régulièrement les mains. Voilà, tout ça, j'ai aucun problème avec le fait de respecter les gestes barrières.
Tu n'embrasses jamais personne, tu ne côtoies jamais personne. Tous les proches que tu côtoies, tu les côtoies avec un masque.
Je ne côtoie pas tous mes proches avec mon masque. Par exemple, mon copain, pas du tout. Mais en revanche, il n'y a plus de bise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les gens maintenant se checkent. Ils mettent du gel hydroalcoolique juste derrière. La bise a disparu.
Genre. Mais Anna, pardon, tu partages des repas avec des tas de gens.
Tu pourras embrasser Laurent Neumann si tu te fais vacciner, puisque tu
trouves ça triste. Voilà, tu pourras me faire la bise si on se croise à Cannes. Je vais passer ça, à Cannes cet été. Cool. Tu vois, si on se croise, on peut se faire la bise.
Oui, mais ça ne m'empêchera pas de potentiellement avoir le Covid. Ça m'empêchera juste d'en avoir une forme grave, ayant 26 ans et n'ayant pas de pathologie. Je ne vois pas pourquoi je me ferais vacciner.
J'entends ce raisonnement, Anna. Sauf que je suis sûr qu'il t'arrive de partager des repas sans masque avec des gens qui te sont chers, parents, grands-parents, amis, âgés, des gens même peut-être
dont
tu ignores qu'ils ont des pathologies dangereuses, etc. Donc si tu ne le fais pas pour toi, j'entends ce que tu dis. T'as 26 ans et je croise les doigts pour qu'il t'arrive rien. Mais tu peux en revanche transmettre à quelqu'un avec qui ça va être grave.
Là encore, responsabilité individuelle. Si je transmets à quelqu'un qui n'est pas lui-même vacciné, admettons.
C'est de sa faute à lui.
C'est pas de sa faute à personne, mais ça veut dire qu'il aura accepté en responsabilité individuelle. Je pense qu'il connaîtra les risques, il aura calculé son bénéfice-risque, et je pense qu'il n'en voudra pas, d'ailleurs.
Alors, j'ai entendu ce genre d'argument, Alexandre, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Dans ce pays, il y a 400 000 personnes qui ne peuvent pas aller se faire vacciner parce qu'ils sont atteints de maladies auto-immunes, et même s'ils seront vaccinés, d'accord, ils ne seront pas protégés. Bah, rien que pour ces 400 000 personnes-là, tu peux faire cet effort.
Mais j'ai rien dit, je vais me faire vacciner.
Je vais me faire vacciner.
Mais à un moment donné, la responsabilité individuelle, ça compte. Et les gens, voilà, sont responsables aussi de préférer ne pas être vaccinés. Surtout qu'on est là, dans un moment, je pense, encore une fois, je peux être démenti par les faits, où le risque de confinement est limité. Donc, je pense en appeler au civisme, au patriotisme même, et à la responsabilité individuelle, c'est plus efficace que de culpabiliser et d'expliquer qu'on est un criminel en puissance si on ne se vaccine pas.
En tout cas, désormais, peu importe le sujet sanitaire, le sujet qui revient, c'est les vaccinations obligatoires.
En gros, tu vas tuer ta mère ou ton grand-père ou je ne sais quoi.
Je te redis que tu es un tout petit peu incohérent, mon petit Alexandre. Pardon de te dire mon petit Alexandre. C'est pas des... C'est pas
quelle condescendance.
C'est pas des obligeants. Je sors les armes.
Pardon, à partir du moment où tu dis... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. À partir du moment où tu dis que se faire vacciner, c'est un acte patriotique, tu prétends donc par antithèse que ceux qui ne se vaccinent pas sont de mauvais patriotes. Si je dis moi, et moi je l'assume, que la vaccination est un acte civique, eh bien ceux qui ne le font pas n'agissent pas par civisme en l'occurrence. Mais je l'assume de dire ça.
La même chose.
Je l'assume, il faut que tu l'assumes aussi.
Eh bien, ça ne convaincra pas Anna, mais comme je le disais il y a 30 secondes, peu importe le sujet sanitaire, maintenant c'est vaccin obligatoire ou pas, ça revient systématiquement à ce sujet-là.
Et si je vais à Cannes, est-ce que je peux faire la bise à Anna ?
Ou pas, on arrête avec la bise, Laurent Neumann.
Oh,
tu laisses les gens tranquilles, ça suffit maintenant.
J'adore faire la bise.
Merci beaucoup Anna d'avoir été avec nous dans Neumann le Chip, c'est normal que tu adores faire la bise, tu, c'est normal.
Je suis vacciné ?
Non, c'est pas ça, tu es un homme de 55 ans, donc tu adores faire la bise, ça va avec, c'est normal. On vous attend au 32-16 pour parler, pas de la bise, pas du tout, les femmes... Non,
c'est vraiment, j'ai pas 55 ans.
Pas du tout. Les jeunes femmes sont assez peu nombreuses à adorer faire la bise. Allez, on vous attend au 32-16.
Ils sont d'accord.
Bah, fais la bise aux vieux de 50 ans. Allez.
Et voilà où nous mène le Covid.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre. RMC, midi 15h. Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Phuket, Saint-Malo, Nice, certaines villes remettent en place le masque à l'extérieur. Alors face au variant Delta, faut-il généraliser cette mesure pour Laurent Neumann ? C'est oui, en attendant que tout le monde soit vacciné, c'est la mesure la plus efficace à comprendre. Pour Alexandre Devecchio, non, la plus efficace et la plus simple à comprendre. Pour Alexandre Devecchio, non, on dramatise, c'est une mesure totalement inefficace. Je ris parce que tu sais que j'ai oublié des mots dans ton avis, c'est pour ça que je ris. Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
Et on est avec Christophe qui nous appelle depuis Strasbourg, qui est cadre commercial. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Toi, tu es pour ou contre le masque en extérieur ?
Alors, je suis pour et contre.
Ah, bah c'est pas demi-masque.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que je vais être pour ceux qui ne sont pas vaccinés et je vais être contre tous ceux qui auront été vaccinés, de manière à créer vraiment une différence. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais le risque, aujourd'hui, ça démontre, cette crise, elle démontre juste un égoïsme. un égoïsme de certains qui se disent bah non, bah même si la règle du jeu c'est la vaccination, moi avec mes idéologies, je veux pas me faire vacciner et du coup bah je veux pas porter de masque. Et ben je vais prendre de nouveau l'exemple de la voiture. Je suis au téléphone avec en voiture, je me fais contrôler, même si j'ai plus le téléphone à l'oreille, le flic qui va me voir avec le téléphone à la main, et ben il va me coller une contravention. Et ben vous me baladez en ville à Saint-Malo, Nice, et demain ça va être généralisé à toute la France, vous faites attraper, vous prouvez que vous n'avez pas de test, donc potentiellement vous êtes positif, potentiellement vous n'avez pas été vacciné, et ben vous prenez une contravention, et une contravention sévère qui permettrait au moins de renflouer les caisses par rapport à cette crise financière qui arrive droit sur nous.
Alors Christophe, il se trouve que sur le plan des principes, je suis assez d'accord avec tout ce que tu décris. Mais comme j'aime les règles qu'on est sûr de pouvoir appliquer, je te le dis, malheureusement, ce que tu suggères n'est pas applicable. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire dans la rue la police et arrêter tous les gens qui n'ont pas de masque pour leur demander est-ce que vous avez eu le vaccin ou pas. Donc okay, ce n'est pas applicable. Parce que sur le plan des principes, c'est toi qui as raison. C'est indiscutablement toi qui as raison. Mais ce n'est pas applicable au quotidien, malheureusement. Donc, oui, par égoïsme, des gens ne veulent pas se faire vacciner, ou par idéologie, ou je ne sais pas pour quelle raison, mais n'empêche que du coup, ça oblige tout le monde, y compris ceux qui ont fait l'effort d'aller se vacciner, d'avoir les mêmes contraintes que les autres. C'est injuste, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement.
Donc, c'est les minorités qui vont être...
Alors,
les sachants.
Eh ben là, tu as raison, parce que effectivement, les non vaccinés sont désormais minoritaires. On est passé à 51% de vaccinés. Donc maintenant, ceux qui ne se font pas vacciner, oui, sont minoritaires. Tu as raison.
Et c'est pour ça que 51, c'est déjà un beau chiffre, que ça va continuer à augmenter et que, voilà, arrêtons de dresser les Français les uns contre les autres. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de sortir de cette crise. Ensuite, sur le, est-ce que c'est la mesure la plus efficace et la plus simple, la plus efficace? Non, puisqu'on sait que en extérieur, il y a très peu de risque d'être contaminé. Et la plus simple à comprendre, à partir du moment où elle n'est pas logique et qu'elle est absurde, elle est difficile à comprendre. Et il faudrait la généraliser, oui. Je rebondis là-dessus. C'est vraiment le point sur lequel je suis le plus
en désaccord. À la généraliser à toutes les zones où il y a du monde.
En désaccord, puisque on a entendu les maires qui avaient un discours tout à fait rationnel et qu'on le rend obligatoire dans des centres-villes touristique où il y a beaucoup de monde, ça peut paraître cohérent, mais il n'y a pas besoin de généraliser.
Bah si, à toutes les villes.
Et c'est peut-être l'un des problèmes.
Si, à toutes les villes.
Et à toutes les villes, non. Il y a des villes où c'est pas touristique, où en centre-ville, on se marche pas les uns sur les autres. Donc laissons la responsabilité aux maires. Allons-nous de vouloir faire une généralité de tout ça? C'est un des problèmes aussi de cette crise, de multiplier les règles à l'infini au lieu de faire confiance au bon sens des personnes.
Je suis étonné de ton discours parce que moi, je me souviens. Il y a quelques mois, on déplorait que le gouvernement n'ait pas anticipé l'utilité des masques. On leur a reproché qu'il y avait
dans
pas
les
de
hôpitaux. Non. Et je continue de leur reprocher. Eux qui culpabilisent les aujourd'hui les soignants, les ont laissés aller au front,
ça y est,
sans blouse, sans masque, etc. Donc je suis de très bonne foi.
Non, t'es de mauvaise
et en plus
foi.
Ils nous ont expliqué, ils se sont foutus de la tête des gens, parce qu'ils ont expliqué que le masque ne servait à rien, ce qui est quand même une faute originelle qui pèse encore aujourd'hui.
Ils ne se remettront jamais alors.
Qui pèse encore aujourd'hui parce que dans la crise de confiance sur les vaccins. Il y a aussi ça. On nous a menti. Donc ça n'a rien à voir.
Donc maintenant,
ça
on explique qu'il y a des masques, avec, maintenant, avec, y a des masques partout. Avec et on explique que c'est pas utile.
Non. Moi, je pense que les masques sont utiles dans le métro. Je pense qu'ils sont utiles en centre-ville. Je pense qu'ils auraient été très utiles aux soignants à l'hôpital. Mais voilà, on peut faire preuve de pragmatisme, de bon sens. Donc, c'est pas les masques ne servent à rien, etc. Et il faut mettre des masques partout, même quand vous dormez avec votre compagne, parce qu'à un moment, on a eu ce délire-là. Justement,
il faut. Quand vous mangez avec vos adolescents.
Pour être efficace et compris, faut faire preuve de bon sens. Et là, on n'est pas dans ça. On est dans la généralisation de règles contraignantes qui pourrissent la vie des gens.
Alexandre, toi, pardon, tu es un type intelligent, mais je suis sûr que chaque matin, quand tu te réveilles, tu apprends des choses tout au long de la journée, et à la fin de la journée, tu te dis « j'ai appris des choses ». Ben les médecins, c'est pareil, figure-toi. Les médecins, ils apprennent. Les responsables politiques, ils apprennent. Alors peut-être que les journalistes font la science infuse et ils savaient tout depuis le début, mais je suis désolé, les médecins, comme tout le monde, ils apprennent. Et il faut accepter ça.
Non, on peut excuser un certain nombre de tâtonnements, mais pour le coup des masques, je suis désolé Laurent, c'était un mensonge, ce n'était pas un tâtonnement. Il n'y avait pas de masque.
Il y a des médecins qui nous ont expliqué que le masque n'était pas
ils
utile.
Ils ont, non, la réalité, c'est qu'ils ont justifié la pénurie en expliquant que c'était inutile.
Et aujourd'hui, il y a des gens comme toi qui nous expliquent que le masque dans les endroits où il y a du monde, c'est pas utile.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je pouvais le comprendre dans les centres-villes touristiques où il y avait du monde et que c'était pas la peine de généraliser cette chose.
Cool, vous êtes d'accord, super. Ah. On est donc on va pouvoir continuer de débattre puisque finalement on est d'accord pour dire que le mieux c'est là où il y a du monde, on met son masque, mais qu'en forêt et sur la plage, on le met pas.
Ah bon, bah alors s'il est sur ma ligne.
Et ben tout le monde est d'accord. On est avec Amandine. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. Amandine, elle est à Marseille, elle est conductrice de bus. Bonjour Amandine.
Oui, bonjour à tous les trois.
Toi, tu ne comptes pas te faire vacciner, Amandine, mais tu es pour le port du masque partout, en fait.
Ah, totalement. En fait, moi, je ne compte pas me faire vacciner et j'espère bien qu'on ne va pas m'y obliger d'une certaine manière. Parce que, croyez-moi, depuis le début de cette pénurie, je respecte entièrement les gestes barrières, c'est-à-dire entièrement. Oui, Laurent, tout à l'heure, tu disais à l'auditrice Anna, quand je vois mes proches, les personnes que j'aime le plus fort, voilà, ça fait plus d'un an que je n'ai pas embrassé ma mère, mon père ou ma belle-mère, par exemple, qui sont à risque, sans masque. Voilà, ils ne m'ont plus vue depuis plus d'un an sans masque. Voilà.
Et toi, ça te plaît, ça ?
Ben non, ça ne me plaît pas.
Ben alors, c'est quand même plus simple d'aller se faire vacciner, non ?
Ben non, parce que déjà, on n'est pas totalement à l'abri de l'attraper. On n'est pas à l'abri de le transmettre, comme disait Anna. Je ne vois pas en quoi le vaccin, avec tous les variants qui arrivent, qui nous dit que le vaccin il va être adéquat à ces nouveaux, à ces nouvelles
variantes. J'ai une pensée pour les hypochondriaques en ce moment. Je me dis qu'ils doivent vivre une vie vraiment terrible depuis deux ans. Soit ils sont totalement guéris par le matraquage en permanence, soit je pense qu'ils vivent dans une grotte et ils ne voient plus personne. Il ne faut pas faire ça, vous allez tomber malade.
Non,
c'est beaucoup plus gravement que du Covid.
Moi, je suis pour le non-port du masque. Je veux bien qu'on l'enlève à la plage. Tout ça, c'est ridicule. De toute façon, voilà, les gens, ils ne le respecteront pas. Moi, je peux vous dire que dans mon bus, pendant un an et un mois, j'ai compté parce que c'est long, j'ai fait la guerre pour que les gens respectent le port du masque.
Mais Amandine, je crois sur parole, je te crois sur parole.
Ils ne le respectent pas.
Je te crois
sur... Ils n'ont même pas peur de l'amende, ils savent qu'il n'y a pas de contrôle.
Amandine, je te crois sur parole. Je suis sûr qu'en tant que conductrice de bus, tu as tout fait pour faire respecter le port du masque. Mais pardon, le point commun entre toi qui ne veux pas te faire vacciner et moi qui veux me faire vacciner, c'est qu'on a tous envie de reprendre une vie normale. Or, la meilleure façon de reprendre une vie normale, c'est qu'on soit tous vaccinés. Et ça, c'est indiscutable. Voilà. Il y en a marre de mettre le masque. Moi qui défends le port du masque dans les endroits bondés, j'en ai marre. J'en ai marre de devoir me passer du gel hydroalcoolique à chaque fois que je rentre chez des gens que je ne connais pas. J'en ai ras-le-bol.
Ouais, ça me fait flipper.
Ça me fait flipper à l'idée de savoir qu'en septembre, on va peut-être nous remettre sur le dos des couvre-feux, des confinements ou des jauges dans les magasins. J'en ai marre. Et ben, la façon de sortir de ça, c'est de se vacciner. Voilà, c'est tout. Il y a des choses qui sont quand même pas difficiles à comprendre. Voilà, j'en ai marre.
Merci beaucoup Amandine d'être venue débattre avec nous dans Neumann Le Chip. Lisa Marie, quel est le résultat des votes ?
On termine sur une égalité parfaite. On parle du Covid, du masque. Vous êtes 50% à avoir répondu oui, il faut généraliser le retour du masque à l'extérieur et 50% à avoir répondu non.
Ouais, mais la vérité, c'est qu'il y a 50% des gens qui sont d'accord avec moi et les 50%, ils en ont marre de mettre le masque. Et je les comprends.
Oui, la vérité.
Voilà, donc en vérité, j'ai fait 100%.
D'accord, ok. Et là, je pense que là, tout le monde est convaincu du fait qu'il se tire une balle dans le pied. Merci beaucoup. Merci Laurent Neumann pour tout ça. On va parler du comportement des automobilistes.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
On parlait de la vitesse dans les villes tout à l'heure. Lisa Marie, tu veux nous parler du comportement au volant? On est loin d'être exemplaire, à part Laurent Neumann, bien sûr.
Sauf Laurent
non,
Neumann.
Je plaisantais, c'est pas vrai, je suis pas du tout exemplaire.
Non, on n'est vraiment pas exemplaire avec le téléphone. Écoutez plutôt, 8% des automobilistes conduisent avec leur téléphone à la main. Et cette proportion monte même à 14% chez les chauffeurs poids lourds. Plus inquiétant encore, 13% des chauffeurs poids lourds ne regardent même pas la route en conduisant sur l'autoroute. Certains consultent par exemple un écran fixé sur le tableau de bord. Ils regardent des films, ils regardent la télévision par exemple. Autrement dit, un conducteur de poids lourd sur 4 est inattentif au volant. C'est ce que révèle une étude dévoilée ce matin par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Pour arriver à ces résultats, les enquêteurs ont observé les conducteurs en immersion dans le trafic pendant 2 mois sur 5 tronçons d'autoroutes différents et à plusieurs moments de la journée. Le résultat est sans appel et peut-être même minimisé puisqu'il est basé sur des observations. Et cette enquête ne prend pas en compte le fait de pianoter sur le téléphone posés sur les genoux, par exemple, ou ceux qui continuent d'utiliser les kits mains libres, pourtant interdits depuis 2015. En tout cas, ces chiffres, ils sont inquiétants, pas très rassurants, alors que beaucoup s'apprêtent à prendre la route des vacances. L'inattention au volant est source de 14% des accidents mortels sur la route. Et puis l'utilisation du téléphone au volant, c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur son permis de conduire.
Oui, mais Lisa Marie, il n'y a pas quelque chose qui t'a frappé dans cette étude? Si les compagnies, la société d'autoroute qui a mené cette étude est capable de faire ce travail en immersion, comme tu dis, et pourquoi la police de la route n'est pas capable de le faire?
Pour prendre les gens en flagrant délit sur
l'autoroute? Moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc, une société d'autoroute qui veut s'inquiéter des comportements déviants sur la route a pu le faire, mais la police, celle qui est chargée de notre sécurité, n'est pas capable de le faire.
Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il vaut mieux prendre le train, quand même. Quand même, si.
Ah oui, t'as raison.
Non, mais de même,
c'est bien
sur la route,
train.
Ça reste dangereux, quand même.
Bien sûr. Y a des
C'est pas très rassurant.
Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur rmc.fr et sur tous nos réseaux sociaux. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même endroit, midi 15h lundi, puisque ça sera la pause du Tour de France lundi.
Et tu sais quoi, je fais la bise à tout le monde.
Il y a pas mal de boulot. Tu veux faire la bise à Christophe Cessieux, il est là.
Si ah oui, je fais la bise
Christophe.
À Christophe. C'est
vrai quand même. 13e étape aujourd'hui, il y a le Pic Saint-Loup au menu.
Oui, ah ben ça y est, il a déjà été avalé. On est au dessert alors. Hein, puisque c'est la 13e étape de ce Tour de France. Effectivement, il y avait une seule petite difficulté. Le Pic Saint-Loup est désormais, le peloton roule en direction de Carcassonne, la magnifique cité médiévale qu'il atteindra aux alentours de 17h. C'est la dernière étape de plat avant l'arrivée dans les Pyrénées à partir de demain, où le Tour 2021 se jouera. On va en parler évidemment jusqu'à 18h avec toute l'équipe de l'Intégral Tour dans un instant.